France Inter.
Portrait n'est jamais la personne. Ce que vous saisissez, c'est la relation avec la personne que vous photographiez. C'est un échange et c'est ce qui se retrouve dans l'image. L'artiste Peter Lindbergh, peintre et photographe, est ce soir notre invité à l'occasion de son travail remarquable sur Alberto Giacometti, présenté en ce moment même à la Fondation Giacometti de Paris. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec quelqu'un que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup et que Peter connaît très bien, c'est Jane B.
Vous ne resterez que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Sois, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien su. ferai que descendre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la côte pour te pendre.
Peter Lindbergh, quels sont vos souvenirs de votre enfance? Vous êtes né dans une ville en Pologne, mais vous avez passé votre petite enfance en Allemagne. Vous en gardez quel type de souvenirs?
Moi, j'étais en Pologne seulement même pas 2 mois. Mais après, j'ai agrandi en fait en Allemagne dans le Ruhr, qui est très industriel, donc entouré par des usines. Le ciel est un peu gris. Le Rhin, juste à côté de Rhin, qui était très large. Et l'autre côté de Rhin, c'était de grandes usines, des cheminées et tout ça. Et notre côté était un tout petit peu plus verte, mais pas vraiment verte non plus. Non, donc pour moi, le premier rencontre avec l'architecture, par exemple, c'était de grandes usines, d'énormes usines. Et ça m'a beaucoup marqué, je crois, et je l'adore toujours.
Déjà, vous regardiez la couleur du ciel.
Oui, peut-être, c'est pour ça que j'aime plus le noir et blanc. J'aime pas le ciel bleu, par exemple, sur les photos. Pour ça, je préfère le gris.
Vous étiez beaucoup dans la rue et je crois que vous aimez beaucoup l'espace public. Et ça se voit dans votre itinéraire photographique et aussi dans votre travail de peintre, mais aussi de cinéaste, Peter Lindbergh. Votre père était marchand de bonbons. Est-ce qu'il vous autorisait à en avoir gratuitement?
Ah, ça, les bonbons, c'est une histoire particulière parce que chaque saison, il y a une collection de bonbons. C'est comme dans la mode. Il y avait une collection de bonbons qui était présentée dans une valise qui s'ouvre agrandie. Et comme les maquilleurs, ils ont aujourd'hui ces valises-là. Et c'était tout le bonbon, c'était collé avec un numéro, un prix et tout ça. Et comme ça, elle a vendu ça dans les boutiques, chez ses clients. Hein. Et
donc en fait, il était créateur de bonbons, votre père?
Non.
Il vendait les collections de bonbons.
Des collections de bonbons qui étaient faites par une entreprise, évidemment. Non. Et lui, il a vendu le bonbon seulement. Mais c'était vraiment sérieux. Alors rien touché là-bas.
Ah, vous n'avez jamais touché un bonbon sans le lui dire.
Après, non, ça c'était après quand la collection était finie. Nous, on a mangé le chocolat et le bonbon avec un goût terrible. Et pour ça, j'ai vraiment un très bon feeling pour le chocolat qui est dépassé les dates, là. Aujourd'hui, comme quelqu'un a dit, j'ai un bout de chocolat pour toi. Et je le mange, j'ai dit, mon vieux, ça c'est vraiment dépassé les dates. C'est horrible, non?
Ah, vous mangez les bonbons périmés.
Oui.
Et alors, comment avez-vous eu l'idée, extrêmement jeune, Peter Lindbergh, de devenir étalagiste et de travailler justement dans la rue? C'était déjà l'ancêtre de votre éveil artistique pour que le regard des passants s'arrête sur ce que vous aviez composé dans les vitrines, au fond.
Oui, mais pour moi, ça, c'est très simple. La ville où je viens, où j'habitais, il n'y a absolument rien d'artistique. Rien. Chez nous, il n'y a pas une seule bouquin à la maison, dans la ville, absolument rien. Et dans la ville à côté, c'est Duisburg. C'était déjà la grande ville pour nous. Et j'ai vu dans les grands magazines comme Galerie Lafayette, des choses comme ça, c'était Horten ou Karstadt, j'ai vu les étalagistes travailler. Et ça, c'était la chose la plus avant-garde, mode artistique que j'ai vu dans ma vie. Et donc, c'est ça ce que je voulais être. Non?
Étalagiste.
Oui, je ne savais pas autre chose existe. Je ne savais pas un peintre, un écrivain, tout ça, ça existe. Je ne savais pas ça.
À ce moment-là, vous ne faisiez pas d'études. Après, vous en avez fait des études.
Ah oui, ça, c'est beaucoup plus tard. Non, ça, c'était 14 ans quand j'ai commencé ça.
14 ans étalagiste.
Oui.
Et finalement, vous avez réussi dans ce métier malgré votre jeune âge. Vous avez été remarqué. Et pourquoi avez-vous quitté Duisbourg pour aller à Berlin en tant qu'étalagiste?
Après, comme j'étais à 18 ans, j'ai eu une lettre du militaire allemand pour me présenter à un certain endroit. Et moi, j'ai fait une annonce à Zurich, dans le Zürcher Zeitung. J'étais jeune étalagiste, je cherchais du travail. Et j'ai eu une réponse, quelqu'un a dit, si vous êtes à Zurich, passez chez nous, on cherche quelqu'un. Et avec cette lettre, je suis allé au bureau de militaire. J'ai dit, j'ai un travail à Zurich et je veux quand même pas le perdre ça. Donc je veux faire ça si me laisser les faire. Et ils ont dit, ok, très rare, je crois. Et donc je suis parti à Zurich, à Lucerne d'abord. Et pour 7-8 mois. Et après, Lucerne, c'était absolument le paradis pour un garçon de 18 ans, quoi. Et je suis parti à Berlin.
Parce que
Berlin, il y a eu un status. Après la guerre, c'était un status différent. C'était pas l'Allemagne, non? C'était la zone occupée. Et donc, on n'était pas allemand. Si on avait habité à Berlin, on n'avait pas fait le service militaire allemand. Donc, enfin, j'ai pas fait le service militaire en Allemagne.
Donc, vous avez échappé au service militaire. En Allemagne, en devenant étalagiste dans ce Berlin encore occupé. Quels souvenirs en gardez-vous? Parce qu'on a l'impression que cette empreinte de ce Berlin occupé a été très importante dans votre imaginaire plus tard pour pouvoir prendre des photographies et trouver non pas seulement un cadre, parce que dans votre définition de la photographie, je crois qu'il n'y a pas la notion de décor ni de cadre, mais en tout cas pour l'atmosphère.
Ah oui, tout ça, ça m'a beaucoup, une empreinte très forte. De Duisburg d'abord, après la Suisse, c'était un peu plus joli, si on veut, plus carte postale. Et après Berlin, c'était aussi, avec le mur, non, évidemment, c'était rien à voir avec aujourd'hui. C'était vraiment une impression très, très forte, non. C'était très fort et très surréaliste quelque part, non. Et ça, c'était une atmosphère incroyable. Et donc, j'ai resté que à peu près 1 an et demi là-bas. Et après, je suis parti à Arles. Après, j'ai arrêté d'être étalagiste et je voulais faire un cours dans l'Académie des Beaux-Arts. Et j'ai fait le cours le soir et après, j'ai réalisé l'Académie des Beaux-Arts à Berlin à cette époque-là. Elle était très, très, très classique avec la peinture classique, après la nature et tout ça. J'ai trouvé ça un tout petit peu embêtant, plutôt perdu de temps, non? J'ai dit à mon professeur, j'ai dit, écoutez, je crois que je vais pas rester ici. Je vais partir à Arles. Parce que mon artiste préféré, c'était Van Gogh à l'époque. Et le powerful paintings de Van Gogh. Et donc, je voulais aller à Arles pour voir où il habitait, non? Et je suis parti à Arles et j'ai resté là-bas.
Et vous avez travaillé un autre petit boulot. Vous êtes devenu arboriculteur.
Comment vous savez ça? Oui, j'ai travaillé à une ferme pour avoir une chambre ou une place pour dormir. Le matin, j'ai travaillé chez eux. C'est le son. Oui, la terre, oui.
Pour vous rapprocher le plus possible des sentiments et du physique, enfin du ressenti physique de Vincent Van Gogh.
Ça, et aussi j'ai appris le vent. Il y a un vent à Arles qui est très très fort et qui vient au ciel bleu. Un ciel bleu et un vent qui est très mistral, ça s'appelle. Un mistral très très fort avec le ciel bleu. J'ai jamais imaginé ça existe. Un vent très fort, sans nuages, non? Et c'était très étonnant. Je pouvais comprendre, Van Gogh est devenu fou. Parce qu'on devient fou si on veut faire quelque chose dehors avec son matériel de peintre et tout ça. Ça se vole tous les 10 minutes. On peut facilement devenir fou.
Et la peinture dans tout ça? Parce qu'à l'époque, vous étiez déjà un artiste peintre. Vous étiez bien plus influencé, en tout cas dans vos études, par des peintres plutôt abstrait comme Kossuth que comme Vincent Van Gogh. Donc,
ça, c'était
comment
plus tard.
Avez-vous trouvé votre chemin artistique?
Ça, c'était plus tard. Parce qu'après, après 8 mois à Arles, j'ai resté tout ensemble deux ans en autostop en Europe, surtout l'Espagne.
Mais quelle vie, hein? Quelle vie!
Ah, c'était bien 2 ans avec les parents qui laissaient faire ça. Ça, c'était très important pour moi. Je trouve que c'est très important pour tous les jeunes de faire 1 an ou 2 ans pour eux.
Comme ça, avec le sac à dos, pas d'argent,
oui,
à l'aventure.
Oui, surtout seul. Hein. Et après, quand je suis rentré, après les 2 ans, je suis resté à Düsseldorf. Et je suis allé à l'école de Krefeld, c'est l'école de Beaux-Arts qui était très pointue. Et j'ai fait mes études là-bas. Hein. Après, comme j'étais artiste, après l'école de Beaux-Arts, on est automatiquement artiste. Et là, j'étais à Düsseldorf, artiste. Et là, les artistes concept art qui sont venus, les Américains qui sont venus, et c'était tellement brillant, surtout Kossuth, qui est aujourd'hui mon ami, d'ailleurs, qui sont venus en Europe avec leur message de leur art. Et c'était tellement brillant que j'ai arrêté. J'ai dit, j'arrête direct. Et je réfléchis si je vais continuer d'être artiste ou autre chose. Et ça, c'est fini avec quelqu'un qui cherchait une assistant, un photographe. Et je suis donc devenu assistant de photographe. Et dans 3 mois, j'ai compris, ça c'est vraiment magnifique pour s'exprimer. Et j'ai devenu photographe.
Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous avez bien connu. On peut dire que vous avez une parenté artistique avec lui, pas seulement à cause de la grâce du noir et blanc, mais aussi dans l'art photographique. Il s'agit d'Henri Cartier-Bresson qui va parler justement de ce noir et blanc. C'est une archive INA du 13 juillet 1995.
La photo telle que je l'aime est en noir et blanc, parce que le noir et blanc est une transposition. Il y a une force émotive extrêmement grande et il y a une abstraction dans le noir et blanc. Pour moi, l'appareil de photo, c'est un carnet de croquis, rien de plus. Et un croquis, c'est pas un dessin, c'est une chose immédiate. Mais enfin, ça a toute la qualité d'une chose prise sur le vif, saisir le vif à bras-le-corps. Il faut obtenir le maximum. Il faut une économie de moyens. Un appareil et un objectif. Et ce qui compte, c'est l'intensité.
Alors, nous venons d'entendre la voix d'Henri Cartier-Bresson. Est-ce que vous êtes d'accord sur sa définition de la photographie? Ce qui compte, c'est l'intensité. Le noir et blanc, c'est un style. Et finalement, l'appareil photographique, c'est comme un carnet de notes. On peut dire que vous avez utilisé la photographie différemment de Cartier-Bresson à certaines périodes de votre vie, Peter Lindberg.
Oui, pour moi, le noir et blanc, c'était ma première définition. Pourquoi j'ai fait le noir et blanc? C'était parce que c'est une interprétation d'une réalité. Donc, c'est pas la vraie réalité qui est en couleur, si on veut.
Alors, attendez, je comprends pas. Ça veut dire quoi?
Le
monde, vous le voyez comme moi.
Oui, on le voit en couleur.
Oui.
Donc, si on le fait des images en noir et blanc, on interprète déjà la réalité. Donc, c'est une première étape vers une activité artistique, si on peut dire. Mais ça, c'était pendant les premiers 10 ans. Après, j'ai réalisé autre chose. J'ai réalisé pourquoi j'ai fait le noir et blanc. Et c'était pas ça. C'était plutôt, pour moi, il y a une réalité dans le noir et blanc qui est de couleur et pas. Et pourquoi? Parce que c'est pas logique du tout. Et c'est parce que dans la Grande Dépression dans les États-Unis, à l'époque, il y a eu des photographes qui ont fait du noir et blanc et qui étaient employés par le gouvernement de documenter la pauvreté, le travail des enfants, le child labor et toutes ces choses-là. Ils étaient envoyés dans tout le coin des États-Unis de faire des documents pour le Congrès, pour faire de la loi contre ces choses-là. Et ça, c'était donc tout en noir et blanc. Donc, et pour moi, je suis agrandi avec ces photographes-là. Et ça, c'est parce que il y a une telle réalité, il y a une telle vérité dans cette noir et blanc-là. J'ai agrandi comme ça et pour ça, je crois, j'ai chez moi, le noir et blanc, c'est identique avec true, avec réel, et aussi avec un engagement, non?
La vérité, l'approche de la vérité.
Oui.
En même temps, Peter Lindberg, dans votre itinéraire, il y a eu le noir et blanc assez peu documentaire dans votre œuvre artistique, et il y a eu beaucoup le noir et blanc, disons, dramatisé, intensifié, un peu... issu d'un imaginaire cinématographique de la fin des années 20 ou même issu du cinéma muet qui là servait peut-être à intensifier le sentiment et l'intensité comme vient de le dire Cartier-Bresson, non?
Oui, mais justement ça
théâtralisé. Ouais, est-ce que le noir et blanc théâtralise un enjeu ou une situation selon vous?
Et cette tampon de vérité, pour moi, c'est toujours noir et blanc, c'est toujours la vérité. Et couleur, on peut choisir si c'est la vérité, on peut choisir ce que c'est pour nous. Mais je veux dire, le noir et blanc, ça dit toujours, ça c'est comme ça, ou ça c'était comme ça. Pour moi, hein, évidemment.
En tout cas, c'était un hasard ou une nécessité, mais vous avez commencé à devenir photographe en étant... auparavant peintre, d'ailleurs je pense que vous n'avez pas du tout laissé tomber la peinture en continuant à devenir photographe, mais toujours est-il que vous avez été l'inventeur d'un style photographique qui a permis de découvrir, on peut le dire comme ça, hein, tranquillement, une nouvelle approche de la beauté, et cette nouvelle approche de la beauté, ça a été grâce à l'univers de la mode. Est-ce que ça s'est passé véritablement par hasard pour vous, Peter Lindberg?
Oui, évidemment, quand on vient de Duisbourg, de la Ruhr et tout ça, toutes les usines et toute la fumée et toutes ces choses comme ça, on a, à mon avis, une très très différente idée de la beauté. J'ai dit toujours, comme j'étais agrandi à Venise, à mon avis, j'ai pas fait un travail comme ça. mon travail était très différent. Mais moi, j'ai toujours essayé, avec mon amour, si on veut, pour l'architecture industrielle et pour les gens, pour des choses comme ça, un peu sec. J'étais pas trop d'accord, ou je trouvais pas la beauté dans les choses jolies, quoi. Ça m'a toujours ennuyé, les choses jolies, les jolies filles, les jolies filles. En 90, le Supermodel, quand ils ont commencé, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ils étaient pas jolis, ils étaient pas jolis, ils étaient belles si on veut, ils étaient forts.
Les filles mannequins que vous avez commencé à photographier, qui sont toutes devenues d'immenses stars.
Yeah.
Grâce à vous d'abord, grâce à votre regard.
Oui, mais ça c'était pour une raison, non, parce qu'avant eux, l'image de la beauté c'était beaucoup plus une parcours social, non, les femmes qui étaient dans les environnements super riches, que des magnifiques grosses voitures, Fifth Avenue New York et tout ça.
Et vous les avez mis dans des usines, avec des décors d'usines et dans des espaces industriels.
Oui, mais pas seulement, parce que aussi les femmes, changer les femmes. Si j'ai mis les femmes d'avant dans les usines, ça faisait aucun sens. Mais moi, ce que j'aimais, moi, c'était les filles qui je connais de l'école de Beaux-Arts. Ça, c'était les filles qui étaient là, qui étaient simples, qui n'étaient pas du tout fashion victimes ou des choses comme ça. Ils étaient jeans, t-shirts et tennis. Mais ils étaient là pour un purpose, comment dire en français?
Un projet.
Ils étaient là pour une raison, non? Et ça, j'ai admiré le plus. Et pour moi, les femmes sont toujours été ça. C'était jamais un objet à montrer pour un homme très riche, je sais pas quoi. C'était toujours ça, c'était toujours pour eux. Toute mon image de femme, c'est agrandi, développé sur cette base, non? C'était toujours pour eux. Eux étaient toujours eux. Et là, pour eux, ils pouvaient parler pour eux-mêmes. Et tout ça. Et ça, c'est pour ça que j'ai un profond amour pour les femmes.
Vous avez contribué fortement à dévictimiser les femmes, mais c'est vrai, dans l'image de la beauté que les femmes peuvent avoir. Moi, je fais partie des femmes qui achètent des magazines de mode toutes les semaines et qui regardent les statuts de la beauté qui évoluent tout le temps d'ailleurs. Mais vous avez créé une forme de beauté qui a été rendue contagieusement belle et désirable par toutes les femmes, en débarrassant les femmes qui étaient, comme vous disiez, pleines de bijoux, pleines de richesses, pleines de fourrures, pleines d'appâts sexuels dans le regard de certains hommes, pour les rendre belles, on pourrait dire aujourd'hui, un peu brutalement, naturellement. C'est-à-dire que vous avez demandé aux plus grandes filles mannequins de se couper les cheveux, de pas se maquiller, de prendre des jeans, des chemises d'hommes, et tout d'un coup, eh bien, elles apparaissaient dans leur personnalité.
Moi, par exemple, je vois quelqu'un qui marche en talons, qui peut même pas marcher en talons, des talons très très hauts. J'ai demandé, mais dis, c'est quoi ton problème? Au lieu de dire, oh, c'est magnifique, t'es vraiment très bien stretché, tout ça. Moi, je pense toujours plutôt, mais c'est quoi ton problème? Et elle m'a dit, ça, c'est mon mari qui adore ça. J'ai dit, mais mon Dieu, non. J'ai dit, change your husband, non? Change ton mari. Plutôt que mettre les chaussures comme ça, où tu peux pas marcher. Et j'aime pas quand les femmes font des choses pour les hommes. Ça m'a toujours énervé un peu.
Et votre définition de la beauté?
C'est très très simple. Hein. La beauté, si on arrive d'être soi-même, qui est pas si facile que ça, on est toujours magnifique. Il n'y a absolument pas une autre possibilité. Hein. Et c'est la seule raison. C'est ni les cheveux, ni l'architecture ni l'architecture du visage ou un corps magnifique. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps magnifique? C'est absolument inutile. Et on est devenu soi-même. C'est une vraie. On est arrivé à un point où on est automatiquement magnifique. C'est pas possible autrement. On peut être gros, on peut être n'importe quoi. Mais un personnage qui a ça, qui est arrivé à ça, elle est toujours magnifique et belle, non?
Alors, des livres témoignent de votre engagement photographique et déclinent une certaine idée de la beauté. Encore une fois, j'insiste pour dire que vous avez créé une nouvelle approche de la beauté qui s'est universalisée grâce à l'écho médiatique de vos propres photographies. Parmi toutes ces photographies, évidemment, il y a des mannequins, il y a l'univers de la mode, vous avez fréquenté les plus grands couturiers, mais aussi les plus grandes actrices. Parmi elles, il y a Jeanne Moreau. Et je vous propose d'écouter la voix de Jeanne Moreau qui va s'exprimer à propos de la solitude. C'est une archive INA de 1976.
Je ne suis pas une femme très entourée. J'ai des amis, j'aime être seule, et je ne suis pas le seul être humain qui vit la solitude. Nous la vivons tous. Mais ça, tout le monde ne l'accepte pas. La solitude, je suis sans doute quelqu'un de privilégié, je peux en parler, parce que pour moi c'est un luxe, parce que je sais l'apprécier, même si quelquefois c'est douloureux. Moi, ce que je peux faire, en jouant au théâtre, en apparaissant sur les écrans, en chantant, c'est communiquer comme ça, avec des gens peut-être que je ne les connais pas. Mais c'est, je sais pas, une sorte de chaleur.
Vous souriez en écoutant la voix de Jeanne Moreau.
Oh, ouais. J'ai fait un film avec des photos, c'était un expériment, qui commençait très petit, genre un truc de 15 minutes, à la fin c'était 1h30, et avec la voix des gens, et comme elle parle français et anglais, elle fait toutes les deux versions, et c'était formidable, comme un massage. Ça s'appelle Everywhere at Once. C'était montré à New York dans le festival et tout ça. Et c'est pas un grand film cinéma, non. C'était un film expérimental. Mais c'était avec elle beaucoup, beaucoup plus tard. Ça fait peut-être 10 ans. Et la voix était très, très différente, non. Et vraiment magnifique. C'est vraiment comme j'écoute ça sur mon ordinateur. De temps en temps, je suis assis quelque part. Et je l'écoute seulement parler, non. Après, elle était très involvée dans l'histoire. C'était une histoire qu'on a, à la fin, écrit un tout petit peu, avec un texte et tout. Elle a dit, ça ressemble à moi, quand moi j'étais jeune, à tous mes problèmes et tout ça. Et donc, elle était très involvée. Elle a changé les scripts et des choses comme ça. Et elle a parlé. Oh, elle a parlé. C'est magnifique. C'est magnifique. Damas, je prenne avec moi.
Mais sa voix, vous avez raison, résonne encore comme un massage, comme des messages, mais aussi comme un massage. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Peter Lindbergh, qui a choisi une forme de massage aussi, puisque c'est Tom Enreich.
I'm just a fool to love you. I'm such a fool to think you care. Although you're here, your heart disappears without sound. My heart's upside down. I'm just a fool to hold you. I'm such a fool to think you wait. What once was so real without your love, how I need your love.
Merci pour ce choix et pourquoi, Peter Lindbergh.
Tom, il a écrit beaucoup pour Pina Bausch, il a écrit beaucoup pour Wim Wenders, pour les films, et comme nous, on se connaît tous très bien, donc c'est venu une sorte d'ami qui vient aussi, si on veut, sur les expositions, à la vernissage, et joue, c'est juste comme ça, ça fait partie de la famille, et il est très très fin, il est très fin.
D'ailleurs, vous avez fait des portraits absolument remarquables de Pina Bausch, toujours en noir et blanc. Une Pina qui vous regarde droit en face. Une Pina qui détestait pourtant être prise en photographie et dont vous avez réussi à vous approcher. Comment et pourquoi, Peter Lindbergh?
Ah ben, Pina, on était très proche de Pina, et Pina, c'était juste une personnage qui traversait, en fait, tout ce qu'on est, quelque part, je sais pas. C'est comme une transcendance, mais comme elle est là, on se sent dans une autre genre d'espace. Hein. Et Wim est aussi très très proche avec elle.
Et lui a rendu hommage par ce magnifique film.
Ah, magnifique, non? Magnifique. Ah, Wim, c'est formidable. C'est vraiment une des personnes, c'est pas la meilleure. Une personne magnifique, que du bien et du réveillé et du artistique et du vrai, tout ça. C'est magnifique. Nous, on vient tous les deux de 15 kilomètres ou 20 kilomètres l'une de l'autre. Ils viennent au même endroit. Ils ont grandi dans le même endroit que moi, pratiquement, ou moi comme lui.
Depuis longtemps, vous réussissez à vous approcher de la beauté que vous trouver, enfin en tout cas, que vous essayez de trouver de manière de plus en plus pure, de plus en plus simple, de plus en plus dénudée, Peter Lindbergh. Et nous avons découvert votre nouveau travail, je pense qu'il a été entrepris d'ailleurs il y a très très longtemps, mais en tout cas que nous ne le découvrons que maintenant, à la Fondation Giacometti à Paris. C'est le travail sur, et j'allais dire presque, avec Alberto Giacometti. Dans ce lieu qui est quand même très imposant et où le respect nous tombe dessus, puisque à peine arrivés dans cette fondation Giacometti, nous avons à la droite de le petit escalier qui va nous permettre de découvrir votre travail, tout simplement la reproduction de l'atelier d'Alberto Giacometti. Et c'est une toute petite chambre qu'il a occupée, rue Hippolyte Maindron, dans le 15e arrondissement à Paris, pendant très 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 longtemps. Petite chambre dans laquelle il a travaillé, dans laquelle il dormait, dans laquelle il recommençait et recommençait. Je vous propose tout de suite d'écouter la voix d'Alberto Giacometti à propos du regard. C'est une archive INA du 9 juillet 1953.
Un crâne n'est pas l'équivalent d'une table ou même d'un fruit, un objet. Il est plus proche quand même d'une tête vivante que de n'importe quoi. Eh bien, alors, là, il y a une chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que, tout d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. Que le reste, la tête qui se transformait en crâne, devenait à peu près l'équivalent du crâne du mort. Mais ce qui faisait la différence entre le mort et la personne, c'était son regard. Et alors, je me suis demandé, et j'ai pensé depuis, si au fond, il n'y a pas d'intérêt, pas grand intérêt de sculpter un crâne, un mort. On a la volonté de sculpter un vivant. Dans le vivant, il n'y a pas de doute que ce qui fait vivant, c'est son regard.
Alors, on vient d'entendre la voix d'Alberto Giacometti qui dit que ce qui rend les hommes vivants, c'est le regard. Et ça résonne particulièrement par rapport à votre travail à l'intérieur de ce musée Giacometti. Comment vous vous êtes approché d'Alberto Giacometti et des têtes particulièrement de Giacometti, qu'a sculpté Giacometti?
Ça, c'était, comment je peux dire? Ça, c'était une chose complètement parallèle. Et ça, c'était choisi et trouvé par Serena Bucal, qui a fait curateur de cette exposition et qui a trouvé toute cette ressemblance dans son travail, dans ses dessins et tout ça, avec des photos que moi j'ai fait plutôt aussi avant 20 ans ou 10 ans ou même plus vieux ou plus neuf. Et ça, c'était incroyable, ce travail. Il y a des ressemblances qui sont vraiment frappantes, non? Et donc, les gens, ils ont dit, dans les critiques, ils ont dit, c'est incroyable, ça rassemble beaucoup. Je sais pas si on se rassemble beaucoup, mais moi, j'ai tellement respect pour son travail et je comprends tellement avec toutes ces choses que j'ai fait dans cette direction-là, avec son travail. J'ai l'impression que je le comprends tellement bien comme il a travaillé, Et comme il a créé, si on veut, et comme il a arrivé à ces sculptures magnifiques, et quand on fait les photos, on le voit différemment. Moi, je vois des gros plans, des choses qui sont pas plus grandes qu'une doigt, c'est ça. Et quand on s'approche, comme on agrandit, d'un coup, le visage devient vivant. Et on voit des choses qu'on voit pas avec l'œil normal. Si on est à 1 mètre d'une sculpture qui est grand comme un doigt, on voit pas grand chose. Mais si on fait la photo, oui. Donc on découvre un complètement différent de Giacometti. Et même dans le moindre détail, il y a une si j'ai dit ça, c'est lui, il est même pas ça, une perfection. Ou on peut dire une perfection d'imperfection. Il est tellement généreux avec les imperfections. Il laisse les imperfections comme il sert à quelque chose, de comprendre quelque chose. Et fait pas une perfection comme beaucoup de photographes aussi, et aussi des artistes qui font une perfection que pour l'idée de perfection, qui est toujours un tout petit peu, qui est pas de valeur pour moi, non? Et c'est magnifique de voir ça. Et on commence à comprendre les choses plus en plus. Et maintenant, justement, comme j'étais la dernière fois dans l'exposition, j'ai réalisé, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec lui. Et je vais continuer de travailler avec ses sculptures.
Alors, il y a plusieurs choses, Peter Lindberg. Il y a d'une part votre travail indépendamment du regard et loin du regard d'Alberto Giacometti, où effectivement, dès l'âge de 20 ans, on peut voir des photographies de vous qui ressemble à du Giacometti, parce que vous inventez des espaces conceptuels où vous mettez en regard, sans mauvais jeu de mots, des architectures métalliques avec des femmes vivantes ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi, et c'est ce qu'on peut découvrir dans cette fondation Giacometti, il y a aussi votre travail d'approche de l'œuvre de Giacometti. Et on peut se dire, bon, qu'est-ce que a à voir un photographe avec un sculpteur et avec un peintre de l'Accabit Giacometti. Et puis, quand on voit votre travail, on se dit, mais il nous fait découvrir autrement. Comment on voit autrement, grâce à votre travail d'approche photographique, Peter Lindberg, on voit autrement le travail de Giacometti. Alors, comment et pourquoi?
Parce que Giacometti, c'est un artiste. Il y a des artistes, il y a deux classes d'artistes, je trouve. Il y a des artistes qui ont trouvé leur conviction, si on peut dire, où ils ont trouvé leur propre créativité, qui normalement, c'est donc dans chacun, il y a une sorte de créativité. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écouté dans sa vie, ça forme une personnalité, et ça forme comme une réservoir de quelque chose à l'intérieur de chacun. Et soit, si on travaille comme artiste, soit on le trouve ou on le trouve pas. La plupart des gens, ils le trouvent pas. Parce que c'est compliqué. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, et c'est pas la composition de ça et tout ça. Et de temps en temps, on voit un artiste comme Giacometti, où on voit, lui, à un moment, il a trouvé ça. Et d'avoir accès à cet réservoir, on devient automatiquement une artiste original, unique, et en contact avec lui-même. Et ça produit des artistes comme Giacometti. Ça, c'est aussi, chez les photographes, c'est encore plus facile à voir. Il y a, dans chaque génération, et même si on regarde en arrière, dans chaque génération, il y a peut-être 2-3 photographes qui vont rester. Et ça, c'était les photographes ou les gens qui ont eu accès à cette réservoir de originalité d'eux-mêmes et tout ça. Donc, ils pouvaient dire quelque chose que personne d'autre a vu. Et ça, c'est, un artiste comme Giacometti, c'est pour ça, il a un pouvoir dans son travail qui est incroyable. Par exemple, avant 44, avant la fin de la guerre, il était un chercheur qui a cherché plein de choses qui s'est adapté à beaucoup de mouvements, plastique, peinture et tout ça. Et c'était pas le Giacometti qui est devenu après. Et le moment où il a trouvé son Giacometti, lui-même, d'un coup, quelque chose est sorti qui était unique, non? C'est sous culture après 44, 1944, 45. Et ça, c'est, si on trouve sa conviction et si on trouve soi-même, quoi.
Et vous, vous avez trouvé votre Peter Lindbergh. J'ajoute que Lindbergh, c'est pas votre vrai nom.
Ouais. J'ai changé peut-être mon nom, mais je crois que je l'ai trouvé. Je dirais que je l'ai trouvé.
En tout cas, vous avez trouvé l'art de transcender la beauté sous toutes ses formes. Et durant les différents cycles de vie, vous avez fait des photographies magnifiques avec des actrices pour nous très très chères et très très connues. Mais peu importe qu'elles soient connues. On a l'impression que quand elles travaillent avec vous, ces actrices, j'ai même pas envie de dire le mot pose, quand elles sont avec vous, quand elles travaillent avec vous, Peter, eh bien, elles existent, c'est tout. Et puis, vous prenez des photos de temps en temps. Parmi elles, il y a quelqu'un que vous avez suivi depuis extrêmement longtemps, c'est Charlotte Rampling. Et Charlotte Rampling a une histoire particulière avec le regard et le fait d'être regardée. Elle a d'ailleurs été la muse aussi d'un très grand cinéaste américain, Steve McQueen, quand il faisait de la photographie, de la vidéo expérimentale. Alors je vous propose d'écouter la voix de Charlotte Rampling qui va évoquer sa passion pour la photographie. C'est une archivina du 1er septembre 2005 au micro d'Eva Bétan.
Mon hobby, c'est la photo. En dehors de faire des films, j'ai toujours fait beaucoup de photos. J'adore ça. J'adore la photo créatrice, comme ça, pas juste les photos de ses enfants, etc. Et puis, la lecture. Et quand vous dites jardin secret, aussi mon jardin. J'aime beaucoup les jardins. Donc, à Paris, j'ai des grandes terrasses où je plante beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On fait ça tout seul, mais on est très, très bien accompagné. Parce qu'avec le regard, avec l'appareil photo, je peux me cacher derrière l'appareil et voir ce que je veux voir et prendre les clichés de ce que je veux avoir et les regarder après et m'en réjouir. Et les livres, évidemment, c'est le partage avec le monde de quelqu'un d'autre dans toute son intimité. Et puis le jardin, c'est peut-être là le contact le plus direct avec ce qui est divin, peut-être.
Alors nous venons d'entendre sa voix, la voix sublime de Charlotte Rampling. J'ai l'impression que quand vous faites des rencontres, qu'ils soient vivants ou morts, je parle de Vincent Van Gogh évidemment, et d'Alberto Giacometti, vous restez fidèle, mais quand les gens sont vivants, vous restez fidèle aussi.
Ah oui, Charlotte, je suis, comment on dit, perpétuellement, c'est français ça?
Perpétuellement, c'est magnifiquement français.
Amoureux de Charlotte. Mais impossible de ne pas être amoureux de Charlotte. C'est un personnage unique, magnifique, une finesse. Elle dit quelque chose de magnifique. C'est le dernier dans le bouquin, dans le livre qu'on a fait, que j'ai fait avec les 14 actrices, qui étaient au début pour Pirelli et après un bouquin de Taschen aussi, et qui s'appelle Shadow on the Wall, et où elle a dit, nous, on aime bien de se montrer au monde, s'il fait, aux autres gens. Mais moi, j'aime beaucoup ces Peter qui montrent au monde qui je suis. Non, un peu ça c'est quand même assez magnifique, non?
Bon compliment.
Et j'espère, je veux pas dire trop, j'espère que c'est à peu près ça, ou peut-être j'ai rêvé un tout petit peu aussi, mais je crois que c'était ça ce qu'elle voulait dire. Et c'est magnifique, non? Mais elle est beyond, je peux même pas commencer d'expliquer quelque chose avec des mots.
Alors, dans cette émission, Peter Lindbergh, on demande à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer sur son itinéraire. Nous avons demandé au directeur des rencontres de la photographie d'Arles, Sam Sturze, de nous dire ce qu'il pensait de vous. Écoutez.
Peter Lindbergh, c'est effectivement un vieux compagnon arlésien. Il y a d'abord souvent exposé avec une très belle soirée, je me souviens, en 2008 au Théâtre Antique où il rencontrait son vieux complice de toujours, Paolo Roversi, dans un mano à mano. L'un et l'autre se faisaient une espèce de joute verbale et visuelle, s'apostrophant à travers des photographies. C'était un moment mémorable des rencontres d'Arles. Peter Lindbergh, c'est aussi un vieux compagnonnage avec la Camargue et avec la ville d'Arles pour tous ceux qui sont descendus dans le magnifique hôtel du Norpinus sur la place du Forum. Certaines des chambres sont décorées de ces photos. Mais le vrai apport de Peter Lindbergh à la photographie, c'est la manière dont il a réussi à introduire une espèce de style documentaire dans la photographie de mode. Son talent, c'est d'avoir réussi en quelque sorte à se libérer de la perfection, sortir d'un effet commercial en quelque sorte pour affirmer le regard du photographe. Pour ma part, j'aime particulièrement une série hyper connue qui fait en 1990, avec un petit côté science-fiction. Il photographie la modèle Helena Christensen et puis l'actrice Debbie Lee Carrington. Debbie Lee Carrington, c'est une actrice naine, disparue d'ailleurs l'année dernière, qu'on avait pu voir dans Star Wars, Le Retour du Jedi, dans Total Recall. Et en 1990, il l'a fait poser un peu comme une martienne ou une cosmonaute à côté du top modèle Christensen, dans une ambiance comme ça, très cinématographique. C'est ça pour moi, Peter Lindbergh, c'est cette manière d'introduire en quelque sorte de la narration dans ses portfolios de photographie de mode. En ce sens, il a vraiment révolutionné le genre, tout en s'inscrivant dans une tradition allemande. C'est étonnant de voir que plusieurs des grands photographes de mode du 20e ou du 21e siècle sont allemands, à commencer par Horst Behorst, ou bien Helmut Newton, Peter Lindbergh ou Helena von Humboldt.
Voilà le point de vue de Sam Sturze. De quoi est fait l'avenir pour vous, Peter Lindbergh ? Donc, un nouveau compagnonnage avec Alberto Giacometti ?
Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, vous avez dit dans une interview, en 20 ans, vous avez dit, si vous êtes 70 ans, vous arrêtez parce que vous pensez à cette époque, vous ne pouvez plus rien faire d'intéressant. Ben, c'est vrai, j'ai dit ça et j'ai cru ça aussi. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire, il faut le dire. Parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à revenir dessus, ou à inventer nouveau, ou revenir dessus qui guide à un autre chemin maintenant pour continuer. Et il y a tellement de choses importantes à faire. C'est exactement le contraire, je crois. Et les expositions maintenant, qui sont devenues, j'ai fait une exposition à Düsseldorf, au Kunstpalast, la prochaine février. Et sans personne me aide. Le musée a demandé, personne doit m'aider. Je fais ça complètement toute seule. Et j'ai en plein dedans, et c'est un psychanalyse, c'est magnifique, c'est un psychanalyse. On peut tous utiliser ce qu'on connaît pour faire quelque chose qui est complètement nouveau et différent, et ça c'est pas un moment pour arrêter, je veux dire, non.
Eh bien, j'espère que vous n'arrêterez jamais, Peter Lindbergh. En tout cas, merci infiniment, merci pour cette exposition, merci pour toutes vos photographies qu'on peut découvrir grâce à de nombreux livres qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Et nous allons nous quitter en écoutant un chanteur, je suis sûre que vous le connaissez et que vous l'aimez, il s'appelle Étienne Dao.
Ah, mon ami, et au plus je veux dire merci à Sam.
Soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois, et là dans la personne ne nous voit, infidèle égaré, sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle, invisible à vos yeux. La vénéneuse, les perles silencieux, au fond de nous, l'état. je serai morfonde. Nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre, griffes sur le pavé, les cœurs givrés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux. Cet éclat vénéneux des perles silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux. Cet éclair dangereux. Au fond de nous, l'étincelle.
C'était donc Étienne Dao avec l'étincelle. Merci à Johanna Gabry qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. À Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert. Et à Lilian Allôme qui a réalisé, comme chaque soir, cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Didier Varro, qui, comme chaque vendredi, va nous entraîner dans sa notre foule sentimentale.